Ce qui suit sont des extraits d'un texte écrit par Ida Hirzenfelder, qui porte une réflexion sur la contribution de l'Institut slovène KONA dans le cadre du projet européen Acoustic Commons. Le texte intégral est disponible via les sites de KONA ou acousticcommons.net, ainsi qu'une documentation complète des œuvres citées. L'équipe de ZAI tient à préciser qu'il s'agit d'une traduction rédigée par Peter Sinclair, enregistrée par Laura Jacob. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'un format tout à fait nouveau pour nous, produit en quelques heures seulement, avec nos connaissances parfaitement amatrices. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Exercice d'écoute de l'inaudible. Acoustic Commons est un réseau pour les flux environnementaux en direct qui attire l'attention sur les sons uniques de lieux particuliers et explore l'écologie acoustique. Ce réseau met en relation des écologistes du son, des streamers, des artistes sonores et des musiciens expérimentaux qui, de diverses manières, réfléchissent au rôle des explorations sonores dans la promotion de la pensée biocentrique. Un mot bien complexe pour exprimer l'importance et le poids de l'homme sur ceux des autres êtres vivants et non vivants, tels que les oiseaux, les araignées, les arbres ou les pierres. Ici, on ouvre les oreilles aux structures sonores qui peuvent informer la culture humaine pour qu'elle devienne plus inclusive des entités non humaines. La sensibilité acoustique est une pièce du puzzle de l'augmentation de la conscience qui aide à empêcher de nombreuses créatures sensibles au son de décliner vers l'extinction. Les activités d'Acoustic Commons ont coïncidé avec l'un des moments de silence les plus dramatiques, une rupture qui ne pouvait être surpassée que par une éventuelle panne due à une tempête solaire de Carrington. Avant les restrictions appliquées aux déplacements publics au début de la pandémie, il était difficile d'imaginer que le mastodonte du capitalisme, le grondement des voitures, des avions ou des masses humaines puissent jamais se taire. Ne serait-ce que pour quelques semaines seulement, cela a donné de l'espoir à la possibilité de l'éteindre pour une cause commune. Malheureusement, 2 ans plus tard, les humains semblent trouver notre cause commune plus perdue que jamais. Par conséquent, commoning, le partage, le fait de se rassembler dans un lieu spécifique, devient encore plus critique, plus important. L'Institut KONA, l'un des membres d'Acoustic Commons, s'est approprié ce passage au silence non pas comme une rupture, mais comme une continuation des préoccupations liées à l'écologie acoustique. Une de mes premières sorties début avril 2020 était aux premières heures de la journée. La ville était apocalyptique, dans la béatitude du soleil du matin. Pas une personne en vue. Les oiseaux étaient bavards mais pas bruyants, car ils n'avaient pas besoin de rivaliser avec les bruits mécaniques. Je faisais du vélo vers le centre-ville. J'ai remarqué une autre figure solitaire vêtue d'un vêtement coloré, faisant du vélo loin de l'autre côté d'une rue vide du centre-ville slovène. Rapidement, un grand sourire a envahi tout mon visage. Irina Pivka! Qui d'autre pourrais-je rencontrer au milieu d'un confinement strict dans une ville complètement abandonnée, sinon une artiste sonore, enregistreuse de terrain? Elle venait de terminer ses recherches pour le sound camp de la journée. Nous avons eu une conversation rapide et perplexe sur le beau silence de la matinée et nous nous sommes dit au revoir. J'étais en route pour rencontrer Robertina Zepranik, une autre participante au Sound Camp. Nous allions chercher le héron cendré avec qui elle s'était liée d'amitié au cours du mois précédent et nous allions écouter, non pas enregistrer. Maintenant que les humains nuisibles étaient partis, le héron s'était déplacé vers la berge du centre-ville. Elle a rendu hommage à son bel ami en créant Talks with Grey Heron. Nous ne l'avons pas trouvé, mais nous avons continué à monter et descendre la berge le long du canal, en remontant le petit ruisseau affluent. Nous avons plongé un hydrophone, ici et là dans la rivière, pour entendre l'absence de nuisances sonores. Elle était claire et on pouvait presque en voir le lit. Nous étions heureuses de marcher et d'écouter. La marche est une méthode d'enregistrement de terrain qui ne nécessite souvent pas d'enregistrement. Il y a quelque chose de simple à comprendre au sujet du programme Kona. C'est la relation profonde qu'il entretient avec les sites d'écoute et la façon dont le corps bouge, ou ne bouge pas, dans le temps et l'espace, lors de l'écoute. La localisation du son nous informe non seulement sur les conditions écologiques d'un lieu, mais offre également au lieu une sorte de positionnement en tant qu'entité politique et sociale. En français, Kona signifie zone. Pour moi, une zone est un espace ouvert sans frontières ni centres. Il n'est reconnu comme tel que par les conditions dans lesquelles les choses, vivantes ou autres, se rejoignent dans leur capacité mentale, sociale et politique, voire même psycho-énergétique, comme le soutient l'artiste sonore mandjaristique. Écouter en marchant. Kona n'utilise pas la marche uniquement comme un format pour présenter des compositions sonores, bien que nécessaire et permettant une grande accessibilité. Lors de la marche, les séquences neuronales activées dans le cerveau sont différentes, stimulant l'être humain et très probablement les autres êtres à penser, ressentir et agir différemment que s'ils étaient immobiles. Le sens du mouvement et le changement psychoactif de la perception ne sont pas seulement détectables par les animaux complexes, mais aussi par les plantes, dont les schémas hormonaux changent en présence d'autres espèces. De tels changements infimes dans l'environnement peuvent sembler négligeables pour la plupart. Pourtant, ils offrent aux artistes sonores, sensibles aux subtilités de l'environnement, des ressources abondantes pour contempler les relations des choses dans le monde. La marche affecte plus la pensée créative que la pensée logique. Bien que les philosophes aient utilisé la marche comme moyen d'arriver à des pensées, ce n'est pas la pensée qui les a amenés à cet endroit, mais plutôt une pratique somatique du mouvement et de la non-pensée. Le rythme de la marche stipule le rythme de la pensée, facilitant la capacité d'entendre et d'être plus attentif aux relations et aux dissonances entre le son et son environnement. Le rythme de la marche est audible dans les pièces binaurales d'Irina Pivka et Brian Zerman. Selon Pivka, le chevauchement de la narration avec l'environnement dans lequel un enregistrement particulier a été réalisé colle l'auditeur à l'emplacement. Vous êtes en promenade sonore, vous entendez un pas régulier, suivi d'une narration suggestive. Ce ne sont pas vos pas que vous entendez, mais cela vous fait prendre conscience que vous marchez à ce rythme particulier, sur ce gravier, à ce moment précis de la journée. Vous sentez que ces sons appartiennent à ce lieu et sont entièrement situés dans ce lieu, mais ils sont forcément d'un autre temps et souvent contrastés. Les décalages et les correspondances, le chevauchement du site et la dissonance avec le lieu sont quelques-unes des stratégies mentales qui empêchent l'auditeur de se détacher, de se décoller du lieu. Ils appellent l'attention sur l'ici et maintenant. Les promenades sonores de Pivka et Zerman visent à prendre conscience du paysage psychogéographique, conditionné par une intervention humaine plus ou moins invasive. Ils donnent de la visibilité à des environnements urbains négligés ou en détérioration, mais qui recèlent un immense potentiel pour se régénérer. Observez le réensauvagement. En parlant de la conscience d'un son situé, intéressons-nous au travail de Luca Prinsic. Dans une conversation, il a mentionné que le son doit inclure la prise de conscience, non seulement des processus sonores, mais aussi des effets extra-musicaux qui produisent des inégalités et des séparations. Par exemple, lorsque l'on vit à quelques pâtés de maison du centre de déportation des migrants, on ne peut pas simplement profiter du chant des oiseaux. Les friches, les lieux abandonnés, tous révèlent leurs aspects politiques et sociaux, là où les humains ont cessé d'intervenir. Dans sa pièce « Sonic Ontology of Negligence » 2021, Mandjaristik a exploré les sites de rewilding. Au cours de sa résidence Kona à Ljubljana, elle a continué à visiter le même endroit et à réaliser des enregistrements sur le terrain dans la structure abandonnée et inachevée du centre-ville commercial Stozice, près du périphérique de Ljubljana. Elle les a mélangés avec des enregistrements d'autres sites industriels abandonnés, tels que d'anciennes carrières sur la rive sud de l'île de Korkula en Dalmatie du Sud, qui sont maintenant des plages insulaires idylliques. Nous avons écouté sa pièce pour la Stedtklinik Galerie au début du deuxième confinement, dispersée dans le parc car les rassemblements de plus de 5 personnes n'étaient pas autorisés. Les premières journées froides et ensoleillées début novembre 2021. J'ai ressenti un incroyable sentiment de nostalgie lorsque j'ai entendu le bruit de la mer des carrières de calcaire réensemencées. Le déferlement des vagues s'est superposé à la réverbération naturelle de la pluie, goutte à goutte, entre les ruines d'un projet raté de centre commercial, utilisé par des habitants humains et non humains. Sa construction a commencé juste avant la crise financière de 2008. Il a été abandonné pour des arrangements douteux de spéculation immobilière, mais pas avant qu'une vaste structure en béton armé de 3 étages ait été construite, couvrant plus de 8000 m². Ce monstre brut et poétique est un monument à la possibilité d'une normalité différente, pas celui de la croissance financière, mais de la soi-disant décroissance, un concept sociopolitique mettant l'accent sur la convivialité et le bien-être des personnes humaines et non humaines. Christique résonne avec le terme de tiers paysage que l'ingénieur horticole, jardinier et professeur français Gilles Clément a inventé pour les territoires abandonnés, sans fonction déterminée par les êtres humains. Souvent, une telle potentialité se heurte au besoin d'écarter les humains. Dans son inestimable plaidoyer en faveur du réensauvagement, Georges Monbiot écrit « Dans des endroits autrefois peuplés de fermes et de villes, la dépossession humaine et la guerre ont ouvert la voie au retour de la nature. Nous avons observé un tel cas d'abandon lors d'une visite sur le terrain du réseau Acoustic Commons en octobre 2021. Dans la forêt ancienne de Rossevski, Rogue, un traumatisme politique complexe pendant et après la Seconde Guerre mondiale a éloigné les humains des colonies, laissant place à la nature, sauvage. S'ajoute à cela les politiques d'avant-guerre ayant considérablement affecté la structure de ces bois. Le passage d'une partie de la forêt à une autre apparaissait net comme si on éteignait une ampoule. Il y a plus d'un siècle et demi, une partie de la forêt était gérée en coupant les arbres morts et en entretenant la broussaille et le sol forestier pour assurer un meilleur taux de croissance des grands arbres. Parallèlement, afin de préserver de véritables terrains de chasse, l'autre partie de la forêt est restée intacte, sans intervention. La partie cultivée comportait une forêt lumineuse avec des canopées clairsemées et des arbres fruitiers. Sur la partie non interventionniste, une abondance luxuriante et épaisse de verdure impénétrable a fourni un écosystème diversifié pour toutes les étapes de développement de la forêt. Jeunes arbres, arbres matures, arbres vieillissants et affaissés. La différence visible a révélé un scénario inquiétant de nature, politique, combiné. Un sentiment similaire, troublant mais plein d'espoir, s'insinue dans la structure architecturale enregistrée par Manyaristik. Moi aussi je vois une potentialité dans ce centre commercial, sorte d'édifice colossal avec des fosses d'ascenseurs non protégées et du béton perforé. Je regarde ce complexe submergé par des sujets non humains. Je le considère comme un échec réussi du capitalisme, car il présente les aspects poétiques et esthétiques de la crise. En termes un peu plus dramatiques, la structure est devenue un lieu de démarchandisation radicale. Ce qui avait été conçu pour relancer la consommation s'est transformé en un lieu de communication et de cohabitation potentielle de plusieurs espèces. Une zone précieuse de réensauvagement. Apparemment, les gens ne sont pas encore entièrement libérés de la conception romantique de la nature vierge et du paysage séparé de la culture. L'appel au rewilding est donc une tentative de céder la place à une fusion nature-culture spontanée. Une autre pièce géolocalisée de Pivka et Zorman, Pioneer Garden, 2022, traite de l'importance de ces créatures persistantes apparemment insignifiantes. Dans la promenade sonore, ils ont démêlé un lien complexe entre l'idéologie, l'espace et ses habitants. Leur site, la place de la République, place de la Révolution entre 1974 et 1991, est fortement chargé de connotations de contrôle politique centralisé. Un lieu d'accumulation du pouvoir et à la fois le lieu de sa contestation, des protestations anti-gouvernementales et de l'exercice de la démocratie. C'était autrefois un jardin monastique, abritant des espèces d'arbres rares que l'esprit colonial rendait exotiques. Quelques arbres prospèrent encore, préservés par un consentement particulier dans l'urbanisme. Le cas curieux de ce carré fonctionnel monumental en béton de l'architecture moderniste est qu'il semble être dominé par des intérêts exclusivement humains. Pourtant, dans la promenade sonore, les artistes attirent notre attention sur les petites plantes qui vivent entre les pavés. Leur insignifiance témoigne de la persistance de la volonté coloniale des plantes qui revendiquent leur territoire malgré tout. Ces espèces végétales sont surnommées « flores pionnières » car elles créent et fertilisent le sol dans des conditions difficiles et déficientes en nutriments. En conclusion, nous imaginons la Terre sans les humains comme une catastrophe dystopique, mais aussi comme un potentiel à contempler notre insignifiance qui pourrait apporter une certaine réconciliation avec l'environnement. Cycle d'audition. Dans la pratique de l'enregistrement sur le terrain, le preneur de son s'adapte au rythme et aux textures de l'atmosphère. Un paysage sonore change avec les différences de phénomènes météorologiques. Humidité, température, saison ou ensoleillement. D'autres changements se produisent dans la coloration de l'atmosphère au cours du cycle de 24 heures et se répètent quotidiennement au rythme du soleil. Sur notre planète robotisée, empêtrée dans les réseaux électroniques, les rythmes de toutes les bestioles subissent une forme de désynchronisation interne, induite par la pollution sonore et lumineuse. Les rythmes contemporains ne sont pas seulement conduits par le soleil, mais sont le produit de conventions, d'habitudes et d'accords intra-interespèces. De nombreux enregistreurs de terrain vont de plus en plus profondément dans les bois pour enregistrer le son sans bourdonnement de circulation, d'autres l'éditent méticuleusement pour synthétiser une chanson claire d'une créature, d'autres encore font face aux démons et enregistrent l'environnement dans toute sa splendeur mécanique. Lorsque l'on pense à l'accessibilité et à l'égalité des chances dans la production sonore, l'homme au microphone directionnel est une image phallique classique d'un chasseur d'hommes visant la précision, la pureté et la perfection technique du son. En revanche, dans sa pièce pour Soundcamp 2021, Colin Black ne s'intéresse pas à l'enregistrement réussi ou parfait, mais à l'échec et à la douleur, à la guerre, à la violence et à la désillusion. Pour lui, certains matins ne sont pas la scène charmante et idyllique de la nouvelle renaissance avec un refrain magique à l'aube, mais la continuation de quelque chose de traumatisant. Dans tout l'amour et la connexion que les artistes ressentent pour leur environnement, des questions stimulantes et anxieuses sont posées à travers le bourdonnement et la rupture des fréquences, des archives comme preuves et des voix de témoins. Les compositions de Brian Zorman laissent également place aux espaces entre les sons comme antidote à la pollution et la saturation sonore qui appellent à une écoute profonde. Ces compositions incluent une large gamme dynamique, remplie de silences subtils et de sons non affirmés, qui marquent les saisons et le temps qui passe, utilisant des répétitions et des ondulations avec parallélisme, sérialité, enregistrement in tempo et bouclage. Il est curieux des sons qui existent sous forme de vibrations, mais qui sont inaudibles pour l'oreille humaine. Des fréquences ultrasonores et infrasoniques, hors de notre spectre auditif. Des vibrations subtiles d'un milieu tel que le sol, les corps des arbres ou des pierres, et des courants telluriques électromagnétiques. Les matériaux qui ne contiennent pas un seul élément audible sont animés par divers capteurs et microphones ou par l'imagination sonore. De tels sons prennent du temps à se développer et à raconter leur histoire, d'où des formats de composition relativement longs. Avec d'infimes variations, les motifs répétitifs induisent des états hypnotiques et suggèrent des déclencheurs ancestraux de notre perception. Je crois que les preneurs de sons de terrain sont séduits par l'esprit des choses et la logique mystique. Un preneur de sons attentif dans la nature semble se comporter comme un shintoïste, sentant le chuchotement de la parole autre qu'humaine et ses significations mythologiques. C'est à travers les compositions qu'ils tentent de traduire ce sentiment de connexion et d'empathie à ceux qui écoutent. Les arbres et la pierre deviennent des créatures à part entière. Ce n'est pas seulement vous qui les observez. Ils retournent votre regard en tant que corps collectif.